Bon réveil à tous, le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Rebelote, pourrait-on dire ce matin. Les sondages prédisaient une vague bleue aux États-Unis, une vague démocrate. Elle est bien plus colorée que cela. Bleu et rouge. Joe Biden et Donald Trump sont au coude à coude selon les résultats provisoires que nous avons ce matin. Et les deux hommes s'invectivent à nouveau, vous l'entendrez.
Nous tirerons ensuite les premiers renseignements de ce scrutin. Le vote latino, ça a notamment échappé aux démocrates.
Reste maintenant trois états clés, Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie. Nous irons à Philadelphie où le dépouillement est suspendu. Le vote par anticipation, par correspondance, avait été très suivi.
La présidentielle des États-Unis jusque dans le billet politique à 8h16. Frédéric Saïs verra si l'on peut tirer pour la France des enseignements de cette campagne électorale.
Avant cela, dans cette édition, l'actualité à Vienne. 48 heures après l'attentat, 16 personnes sont toujours gardées à vue. Et puis l'actualité en France avec la gestion de l'épidémie de Covid-19 toujours contestée. Le virus se transmet aussi plus facilement via la pollution de l'air. Vous l'entendrez dans moins d'un quart d'heure. 212 électeurs pour Donald Trump, 223 pour Biden. Il en faut 270 au total pour remporter la mise et le bureau ovale de la Maison Blanche. Autant vous dire que c'est encore très serré à 8h ce matin, 1h, heure de Washington. Une chose est sûre, il n'y a pas de vague bleue, de vague démocrate annoncée ces dernières semaines par les sondages. Pas de surprise, pour le moment on reste à peu près sur la carte de 2016. Et entre les deux candidats, c'est à qui montrera les muscles en premier. Joe Biden a déjà ouvert le bal cette nuit. Il s'est exprimé devant ses partisans il y a 1h30 dans le Delaware, où vous vous trouvez, Sébastien Paour, bonjour.
Bonjour.
Sébastien, vous êtes à Wellington, près du QG électoral de Joe Biden. Dans quelle ambiance ?
Écoutez, à Wilmington ici, c'est au son des klaxons, comme tous les meetings de Joe Biden qu'on a accueilli ce discours, tous ces meetings depuis quelques semaines, puisque ses partisans, vous le savez, sont invités à chaque fois, ici comme partout, sur le parking, ici du centre des congrès de Wilmington, et ils ont dû rester dans leur voiture pour écouter l'ancien sénateur du Delaware, discours de quelques minutes, très court, qui tient en deux mots, confiance, mais patience. Je suis ici pour vous dire ce soir que nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour remporter cette élection. Vous savez, on pourrait connaître les résultats au plus tôt demain matin, mais ça peut prendre plus de temps, comme je n'ai pas arrêté de le dire. Ce n'est pas à moi ou à Donald Trump de dire qui a gagné cette élection. C'est une décision du peuple américain. Mais je suis optimiste sur cette issue. Optimiste, ses partisans ne le sont pas tant que ça, comme Rose, qui aurait préféré une vraie vague bleue démocrate. J'ai aimé le discours, j'essayais d'y trouver tout l'espoir que je pouvais. J'étais assise dans la voiture à regarder les voix des grands électeurs tomber. Biden ne propose pas toutes les politiques qu'on aime, mais c'est un homme bien. Voilà ce qu'on dit ici. Joe Biden a désormais quitté le Chase Center. Toutes les voitures invitées, 200 voitures environ, sont également parties du parking. Et Joe Biden est désormais rentré suivre la suite du dépouillement des voix depuis sa maison de Wilmington.
Merci beaucoup Sébastien Paour en direct ce matin pour France Culture. Vous étiez avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Je signale parallèlement la réponse de Donald Trump sur Twitter, évidemment. Il prédit sa grande victoire et il accuse les démocrates de tenter de la lui voler. Des propos déjà signalés par le réseau social Twitter qui parle d'éventuelles tromperies dans les propos de Donald Trump. Donald Trump qui est toujours président et qui promet de faire une déclaration dans les heures qui viennent. Tournons-nous maintenant vers Washington pour rejoindre Jean-Marc Four, notre fil rouge de la matinale. Jean-Marc, c'est un scénario à suspense maximal qui s'est dessiné cette nuit.
Oui, et ce scénario à suspense maximal conduit à penser aussi que nous sommes dans le scénario avec le plus de risques. Alors, il y a le plus de suspense parce que les deux hommes sont, vous le disiez, au coude à coude. Trump résiste beaucoup mieux que prévu. Il s'impose en Floride, au Texas, dans l'Ohio, trois états clés. Et vous le disiez, la vague bleue espérée par les démocrates n'est pas au rendez-vous. Biden mise désormais sur l'Arizona, qu'il semble pouvoir arracher aux républicains, sur la Géorgie et sur trois états déterminants, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Il doit s'imposer dans au moins deux d'entre eux. Et là, le dépouillement pourrait durer encore plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec beaucoup de contentieux possibles à la clé. C'est ça qui fait aussi de ce scénario le plus volatile et le plus dangereux. Vous le disiez sur son réseau préféré Twitter, Donald Trump vient d'accuser son rival de vouloir voler l'élection avec ses décomptes tardifs de votes. En face, Biden dit qu'il faut patienter jusqu'au dépouillement final, en particulier celui des votes anticipés qui lui sont a priori favorables. On peut donc se retrouver avec deux candidats qui revendiquent tous deux la victoire. Et si c'est le cas, dans ce pays très divisé, à cran que sont aujourd'hui les États-Unis, le risque d'une dérive violente est présent.
Alors Jean-Marc, en attendant les résultats, peut-on déjà tirer quelques enseignements de ce scrutin ce matin ? Qui a voté pour qui ?
Donald Trump fait mieux que prévu. Il a donc remobilisé son électorat le jour J, hier, son électorat traditionnel, masculin, blanc, et aussi une grande partie de l'électorat latino, en particulier en Floride. Biden, à l'inverse, fait moins bien que prévu. Ça veut dire que c'est un revers auprès du même électorat latino, en tout cas en Floride, pas en Arizona, mais aussi auprès de l'électorat noir. Et Biden semble aussi avoir eu du mal à séduire l'électorat ouvrier d'États comme l'Ohio, malgré son profil revendiqué d'homme du peuple. Et puis, il y a évidemment à nouveau ce fossé énorme entre l'Amérique des villes qui vote démocrate et l'Amérique rurale qui vote républicain.
Merci beaucoup Jean-Marc Four pour ces premières analyses ce matin sur les votes que l'on connaît déjà. Certains en revanche ne peuvent pas être analysés pour la simple et bonne raison, vous l'avez évoqué, que les dépouillements ne sont pas terminés dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie notamment. Pennsylvanie où nous vous retrouvons, Farida Noir, bonjour.
Bonjour.
Il se dessine la Pennsylvanie comme un état clé de cette présidentielle.
Oui, un état clé, un état crucial avec 20 grands électeurs tombés dans le giron républicain en 2016 avec seulement 44 000 voix de différence et que les démocrates comptaient bien reprendre ce soir. Mais pour l'instant, ils devront attendre. En Pennsylvanie, près de 2,4 millions d'électeurs ont voté par anticipation. C'est 8 fois plus qu'en 2016. Donc il faudra effectivement tout compter et ça va prendre du temps. La Cour suprême, je vous le rappelle, avait autorisé l'État à dépouiller jusqu'à 3 jours après la date du scrutin, c'est-à-dire jusqu'au 6 novembre. Décision qui avait fait enrage Donald Trump, qui suspecte de possibles fraudes. Alors ce soir, les démocrates de Philadelphie, ils sont allés se coucher sans avoir les résultats. Ils avaient passé toute la soirée dans un pub, écran de télévision géant allumé sur les chaînes info, bière à la main, badge de Biden accroché à la veste, grand sourire en espérant voir la Pennsylvanie se colorer en bleu. Mais finalement, la surprise, on apprend au cours de la soirée que Philadelphie arrête de compter les votes par correspondance parce qu'il y en a trop. Le comptage, il va reprendre demain. Les démocrates sont donc rentrer se coucher, soirée écourtée, espoir douché. Au moins pour ce soir, tous les yeux sont maintenant rivés sur la Pennsylvanie. Avec grand 20 électeurs, les démocrates s'attendaient à voir le visage de Biden s'afficher en gros sur l'État. Eh bien, le comptage pourrait donc encore prendre plusieurs jours pour avoir le résultat final ici.
Pour une vingtaine de grands électeurs, merci beaucoup Farida Noir. Il est 2h07 où vous vous trouvez à Philadelphie, 8h07 à Paris et sur France Culture. Pour suivre les résultats au fur et à mesure, il y a bien sûr notre antenne ce matin et nos plateformes sur les réseaux sociaux ainsi que le site de France Culture avec une projection déjà. S'il y a une contestation des résultats, quels recours sont possibles ? Cet article est à retrouver en ligne sur franceculture.fr. J'ajoute pour finir que les démocrates garderaient parallèlement le contrôle de la Chambre des représentants. Côté Sénat, actuellement dominé par les républicains, on note que les démocrates reprennent un siège dans le Colorado quand les républicains en reprennent un dans l'Alabama, statu quo donc. Soulignons aussi une première dans l'histoire des États-Unis, une américaine transgenre est élue au Sénat dans le Delaware. L'actualité est aussi à Vienne depuis avant-hier soir. Depuis l'attaque terroriste dans les rues du centre historique de la capitale autrichienne, le dernier bilan est toujours de 4 morts, une vingtaine de blessés. L'assaillant avait été abattu dans la foulée, la piste de tireur ou de complice en fuite est écartée. L'attaque a été revendiquée hier par l'organisation État islamique. C'est la première fois en Autriche, Isorias.
Dans un communiqué, le groupe État islamique revendique l'attentat de Vienne, qualifiant son auteur, abattu par la police lundi soir dans la capitale autrichienne, de soldat du califat. On connaît désormais l'identité de ce dernier. Originaire de Macédoine du Nord, ce jeune homme de 20 ans avait également la nationalité autrichienne. Il avait été condamné à de la prison en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie, mais avait été libéré de manière anticipée, réussissant à tromper le programme de déradicalisation, a reconnu le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, qui a par ailleurs annoncé que 18 perquisitions et 14 arrestations avaient eu lieu en Autriche dans l'entourage de cet assaillant. L'enquête a également pris une dimension internationale avec l'arrestation de deux hommes de 18 et 24 ans à Winterthur, en Suisse. Selon le porte-parole du ministère de la Justice suisse, les deux hommes connaissent l'auteur de l'attentat de Vienne. Une enquête doit déterminer comment ils étaient en contact.
C'était notre correspondante Isoria Savienne pour France Culture. Et quelques heures après cet attentat, l'Autriche passe sous couvre-feu pour ralentir l'épidémie de Covid-19. La Hongrie, elle, réinstaure l'état d'urgence quand les Pays-Bas ferment pour 2 semaines musées et cinémas. Commerces et restaurants tombent leurs rideaux en Grèce. Les contaminations progressent toujours en Europe. Un sommet de crise des chefs d'État européens est d'ailleurs attendu dans 15 jours. Après la mort au total de 284 000 personnes sur le continent. Bilan qui s'alourdit en France, notamment 428 personnes sont décédées du SARS-CoV-2 dans les EHPAD ces derniers jours. 426 sont mortes à l'hôpital en 24 heures seulement. Les services de réanimation sont d'ailleurs toujours submergés. Près des 2/3 des lits sont occupés actuellement par des malades du Covid-19. Un constat partagé par beaucoup, mais la réponse apportée, à savoir le confinement en ce moment, divise. Contestation à foison, des commerçants aux lycéens en passant par les évêques de France. Pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP, cela s'explique par une nouvelle perception des Français.
Je dirais qu'il y a un rapport différent au confinement entre celui de mars-avril et celui que l'on vit depuis quelques jours. En mars-avril, c'était vu comme une aventure collective, comme un sacrifice consenti par les Français en termes de temps pour vaincre la maladie et pour retrouver, pour reprendre l'expression du président, les jours heureux. Là, on est clairement dans une incertitude jamais vue, dans une incapacité des Français à se projeter, dans une éternelle répétition, hein, confinement, reconfinement, re-reconfinement et peut-être attentat, re-attentat, etc., ce qui crée une incertitude maximale et c'est clair que personne parmi les Français pense que l'épidémie sera finie à l'issue de ce deuxième confinement.
C'était Frédéric Dabi, interrogé par Stéphane Robert. Soulignons ce matin un petit revers politique pour le gouvernement. L'Assemblée nationale n'a pas voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire voulu par l'exécutif jusqu'à la mi-février. Les députés La République En Marche manquaient à l'appel dans l'hémicycle hier soir. Bilan, état d'urgence jusqu'à la mi-décembre seulement. Un conseil de défense est prévu ce matin à l'Élysée. Terminons avec cette étude de chercheurs allemands sur le Covid-19 toujours et son lien avec la pollution de l'air. Ils estiment que la pollution serait responsable de 15% des décès liés au SARS-CoV-2. Elle joue en fait un rôle non négligeable dans la transmission du virus, Véronique Roberotte.
Les particules fines contenues dans l'air pollué favoriseraient les clusters, des foyers de contagion, en prolongeant la durée de vie du Covid dans l'air. En plus d'être un vecteur de l'épidémie, ces particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns constituent un substrat qui va permettre au virus de rester dans l'air pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et de rester actif. Voilà qui remet en cause la distance de sécurité d'un mètre, un des gestes barrières. La pollution de l'air, véritable autoroute pour le coronavirus, avec pour destination nos poumons. Des poumons déjà fragilisés par la pollution de l'air, les particules fines en pénétrant en profondeur dans nos poumons fragilisent les personnes vulnérables, elles détériorent l'état de santé de personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires et au final aggravent les symptômes du Covid-19. Les deux conjugués, exposition à long terme à la pollution de l'air et infection par le Covid-19 conduit fatalement à une plus grande vulnérabilité du malade. La semaine dernière, la France était à nouveau épinglée par l'Union européenne pour non-respect des règles liées à la qualité de l'air. La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'UE contre la France pour non-respect de ses obligations en matière de protection des citoyens. Les chercheurs rappellent que s'il y a un espoir de trouver un jour un vaccin contre le Covid-19, il n'y en aura jamais contre la pollution de l'air. Seul remède, en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles.
C'était Véronique Roberotte. Un temps sec ce mercredi, avec un soleil dominant sur la moitié nord-ouest. Ce matin, quelques bandes brouillard prévues sur le centre et des nuages bas sur les Pyrénées, mais pas de pluie pour tout le monde. Ce matin, il fait 3 petits degrés à Rennes, 6 à Lille et à Paris, 8 degrés à Dijon, 17 degrés à Nice. Je vous rappelle le fil rouge de cette matinée, la présidentielle aux États-Unis. Pour le moment, c'est toujours très serré entre le président sortant Donald Trump, qui totalise 213 grands électeurs contre 225 pour Joe Biden, le démocrate. Pas de raz-de-marée. Les États à suivre encore, Guillaume, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.